Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le réenregistrement de la deuxième Maté Radio. Alors en effet, il paraît que nous avions eu un petit bug technique et que tout n'a pas forcément bien fonctionné. Donc on s'est dit pourquoi pas refaire l'émission en direct parce que quand même ça aurait été dommage de se priver de l'interview de Sylvain Laforêt. Donc on repart au cœur des étoiles pour cette deuxième Maté Radio qui est le rendez-vous mensuel qui vous est proposé par l'Institut Chevreul, un institut de chimie des matériaux. Et personnellement, je m'appelle donc Maxime Traîneau, je suis chargé de médiation scientifique dans ce même institut et c'est moi qui vais encore une fois mener cette interview avec les mêmes questions. On va voir si on discute de la même chose. Alors bonjour Sylvain.
Bonjour Maxime.
Alors tu es toujours en troisième année de thèse à l'UMET, l'unité matériaux et transformation qui fait partie de l'Institut Chevreul, sous la direction de Hugues Leroux qui est professeur des universités dans ce même laboratoire. Et ton sujet de thèse, il me semble, s'intitule toujours hein, « Caractérisation quantitative de matériaux primitifs du système solaire par microscope STEM équipé de caméras à direction directe d'électrons ».
Tout à fait. Alors,
vaste programme. Hein. Donc j'imagine ton objectif, c'est d'étudier des matériaux un peu primitifs du système solaire, hein, c'est ce qui est écrit. Que tu ne vas pas chercher dans l'espace toi-même. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du contexte de c'est quoi cette matière, elle vient d'où ?
Tout à fait. Alors cette matière extraterrestre nous vient donc de l'espace. Et donc, elle est primitive car cette matière a très peu évolué depuis la formation du système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette matière, en fait, se trouve dans des petits objets qu'on appelle les astéroïdes. Et donc, du fait qu'ils sont petits, eh bien, les astéroïdes n'ont pas d'effet tectonique comme on peut avoir sur la planète Terre. Et donc, il n'y a pas de division de sa structure en un noyau avec plusieurs couches, un peu comme un oignon. Les astéroïdes y restent intacts en fait, depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Et donc, aller explorer et étudier de tels objets nous permet de faire ce voyage dans le temps. Et c'est capable aujourd'hui, on est capable de faire ça aujourd'hui grâce à une mission spatiale qui a été menée par l'agence spatiale japonaise et qui a rapporté en 2020 quelques grammes de la surface d'un petit astéroïde d'environ 1 km de diamètre et qu'on a la chance d'étudier au sein de l'Institut Chevreul actuellement.
Alors, récupérer ce genre d'échantillon, enfin avoir accès à ce genre d'échantillon, parce que tu l'as dit, c'est une mission japonaise, donc c'est entre guillemets les Japonais qui détiennent ces échantillons-là. Comment on fait pour les obtenir ? C'est facile ou c'est assez lourd ?
Et donc, en fait, il y a un appel à projet. Alors, c'est la deuxième mission qui est réalisée comme ça par l'agence spatiale japonaise. La première mission, ils avaient gardé les échantillons pour eux. Et là, ils ont ouvert à la communauté scientifique mondiale. Et donc, c'est grâce aux travaux qui ont été faits dans les dizaines d'années qui ont précédé cette mission-là au sein de l'Université de Lille, qu'une renommée s'est forgée. Et donc, l'agence spatiale japonaise a accepté de partager ces échantillons, entre autres avec nous, mais aussi avec plein d'autres laboratoires à travers le monde.
Oui, c'est ça. Vous n'avez qu'une partie de l'ensemble des échantillons.
Tout à fait.
Donc j'imagine qu'ils sont extrêmement précieux et que voilà, c'est des choses sur lesquelles...
Oui, en quelque sorte, ils le sont.
Voilà, ils le sont par leur rareté, en fait.
Tout à fait.
Pas forcément d'ailleurs dans ce dont elles composent, on va en parler plus en détail. Tu l'as déjà évoqué un peu sur le fait qu'on peut remonter dans le passé avec ça. Alors tu as... Donc ça, tu l'as dit, il y avait beaucoup d'informations parce que... Ça remontait dans le passé. Et tu utilises donc un microscope STEM pour pouvoir essayer de, justement, déceler cette information. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ?
Alors, microscope STEM, c'est un mot barbare pour dire que c'est un microscope, un petit peu comme un microscope optique qu'on utilise en salle de biologie. Sauf qu'à la place de la lumière visible, on va utiliser ce qu'on appelle des électrons. Et donc, ces électrons vont nous permettre de zoomer considérablement dans la matière et observer des détails qui vont jusqu'à l'atome, ce qui est impossible à faire avec des microscopes optiques, des microscopes classiques. Et donc, notre idée, c'est d'aller voir ce qui se cache à cette échelle de l'infiniment petit, ça équivaut à diviser l'épaisseur d'un cheveu par 10 000 à peu près. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée de ce qu'on peut apercevoir avec ce genre d'instrument. Et donc voilà, on essaie de comprendre pourquoi on observe telle ou telle matière au sein de l'astéroïde et qu'est-ce que ça peut nous raconter vis-à-vis de son histoire d'un point de vue cosmochimique.
Alors dans ton sujet thèse, il y a aussi indiqué que tu utilises une caméra à détection directe d'électrons en plus de ce microscope STEM. Alors pourquoi quelle spécificité ça a ?
Alors les caméras de détection directe d'électrons sont des caméras qui permettent de déceler la moindre interaction qui se passe lors de la rencontre des électrons avec l'échantillon qu'on est en train d'étudier. Et il faut savoir que ces microscopes-là, fonctionnent un petit peu comme des gros lasers. Et donc ces gros lasers-là, ils ont la capacité de détruire la matière qu'on est en train de regarder. Donc ça peut être dramatique, hein, des échantillons qui sont ramenés de loin dans l'espace, qu'on les a enfin sous les yeux, et qu'on les bombarde et qu'on les détruit, ça peut être un petit peu déprimant, mais l'idée, voilà, c'est d'adoucir en fait nos conditions d'observation afin de ne pas détruire les échantillons qu'on est en train de regarder. Et donc ça, c'est capable grâce au microscope qu'on a ici à l'Institut Chevreul et grâce aux caméras qui nous permettent d'observer les moindres petits détails de ce qui est en train de se passer et donc de limiter l'exposition de notre échantillon à ce faisceau.
Qui fait justement que les électrons peuvent impacter, enfin modifier la structure de l'échantillon?
Alors les électrons, ils arrivent, ils sont accélérés avec de très très grandes vitesses. Et donc, en l'occurrence, un des phénomènes qui est très courant, c'est que les électrons viennent un petit peu comme dans un billard, en fait, disloquer les atomes qui sont contenus dans notre échantillon. Et donc, si on vient disloquer des atomes, si on vient donc comme un billard, en fait, éclater les boules un petit peu partout, eh bien, on va détruire complètement l'échantillon et on va casser toute l'information, en fait, qu'il a apportée. Mmh. À la fois en chimie, mais aussi à la fois en termes de structure et d'agencement dans l'espace.
Est-ce que ça impacte, on va dire, de manière uniforme l'ensemble de ce qu'il y a dans l'échantillon ou ça impacte différemment, peut-être différentes molécules ou différents...
Eh bien, justement, en effet, c'est une bonne question parce qu'il y a certains, par exemple les métaux, sont des phases qui sont extrêmement stables et donc qui ne vont pas du tout être endommagées par ce microscope-là. Et en l'occurrence, on trouve dans l'astéroïde énormément d'argiles. Et donc ces argiles sont radicalement sensible à ce faisceau électronique. Et donc ces argiles-là ont pour caractéristique de présenter des traces d'eau. Et donc ces argiles-là, en fait, représentent en réalité plus des trois quarts de ce que contient l'astéroïde. Et donc l'astéroïde, il est gorgé d'eau en réalité. Et donc si on veut vraiment étudier cette eau-là, il ne faut pas qu'on la détruise avec notre microscope. Et donc tout est là, le
cœur même de ta thèse, évidemment, c'est ce travail-là, c'est de trouver une technique, une méthodologie qui te permet de ne pas casser ce que tu as besoin d'étudier, ce qui serait quand même dommage. Comment tu fais donc concrètement pour ne pas casser, ou limiter tout du moins les dégâts? Comment tu envisages le problème?
Et donc, comment on envisage le problème? Alors, on va placer notre échantillon premièrement dans ce microscope-là, et ensuite... On va essayer de, en fait, dans un premier temps, en fait, au lieu de mettre nos échantillons d'astéroïdes, on va mettre des échantillons qui sont beaucoup moins précieux, qu'on va préparer sur Terre, mais qui vont être similaires à ce qu'on va pouvoir étudier dans l'astéroïde. Et donc là, dans un premier temps, on va faire, en fait, des analyses de destruction, voir comment cet échantillon évolue dans le temps, en fonction de comment on l'irradie. Et donc, il y a tout un jeu de trouver les bons paramètres dans ce microscope-là, à la fois le temps d'exposition, la température, beaucoup de paramètres qu'on peut faire varier, et voir s'il y a un jeu de paramètres qui ressortent, qui permettent en fait de garder intact ces échantillons. Et une fois qu'on est bon, eh bien on peut passer sur nos échantillons d'astéroïdes.
C'est un peu des échantillons crash test finalement.
Exactement.
Ça permet de... Est-ce que, alors du coup, quand tu testes tous ces paramètres-là, est-ce que ça utilise beaucoup d'échantillons? Enfin, parce qu'on imagine qu'il y a énormément de paramètres à identifier, et c'est un peu, d'ailleurs c'est pour ça que parfois on parle d'intelligence artificielle pour trouver les bons paramètres. Là, est-ce qu'on est sur des quantités de paramètres très importante, et du coup, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue expérimental?
En fait, on a 4-5 paramètres. Donc, alors, il faut savoir qu'une manipulation, une expérience sur un tel microscope prend quand même du temps. Donc, même s'il n'y a que 5 paramètres à explorer, ça peut prendre plusieurs jours, voire semaines de manipulation et d'observation. Mais en termes de volume d'échantillons, ça ne représente quasiment rien, puisque nos échantillons, en fait, sont absolument invisibles à l'œil nu, et on peut travailler avec un seul échantillon pendant... des mois et des mois.
Oui, parce que finalement, si certains paramètres évitent la destruction, on n'est pas obligé de changer. Et donc,
c'est l'objectif.
C'est ça.
Tout à fait.
Alors toi, tu arrives plutôt en fin de thèse en plus, parce que tu es en troisième année.
Ouais.
Donc on est sur la partie rédaction, j'imagine. Alors, est-ce que tu as réussi à trouver finalement un jeu de paramètres, une configuration, une méthodologie qui te permet vraiment de bien observer correctement les échantillons?
Je crois qu'on s'en approche bien. C'est là où la recherche est stimulante, c'est que on voit qu'on arrive et qu'on touche plus on y va, plus on touche au but. Donc c'est assez gratifiant et puis ça permet aussi pour les chercheurs de demain qui nous écoutent peut-être d'utiliser qui sait les travaux qu'on est en train de faire ici à l'Université de Lille et entre autres ces travaux sur le microscope électronique.
Est-ce que, alors, une question peut-être qu'on n'a pas forcément abordée, mais il y a une valorisation scientifique que tu dois faire de ces travaux-là. Est-ce que ça passe uniquement par la thèse ou est-ce qu'il y a d'autres manières de valoriser ce travail auprès de ses pairs, en fait?
Alors, il y a différentes façons. En effet, il y a tout d'abord, on va, donc, en plus de rédiger une thèse, lorsqu'on fait un doctorat, on peut aussi rédiger ce qu'on appelle des articles scientifiques, donc qui sont écrits cette fois-ci en anglais, et qui sont publiés dans des revues et qui sont relus par des pairs qui vont valider ce travail-là après maintes et maintes modifications. Et donc, voilà, une fois que ce travail est réalisé, le travail est disponible à la communauté pour s'en inspirer ou pour aller piocher des informations par-ci par-là.
T'en as rédigé, toi, de...
Enfin, oui, j'en ai fait... Alors, voilà, il y en a un qui a été publié récemment, un deuxième qui est en préparation, et puis après, il y a la thèse aussi qui prend aussi pas mal de temps ces derniers temps. Une autre façon de valoriser ce travail, c'est via le biais de conférences. Donc là, on va parler à l'oral, on va présenter ce travail-là, donc en face-à-face avec les pairs. Et puis après, voilà, il y a plein de valorisations qu'on peut faire qui sont de l'ordre plus de la vulgarisation que de l'analyse scientifique rigoureuse, on peut dire.
Mais, et du coup, pareil, même sur ces colloques, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de lieux où tu es allé, de gens que tu as rencontrés? Est-ce qu'il y avait grandes audiences?
Alors oui, ça peut être sur des grandes audiences. Alors il y a des colloques qui sont nationaux, qui vont rassembler une petite communauté autour d'un domaine. Et puis ensuite, il y a des colloques, voilà, qui sont un peu plus internationales et qui vont drainer beaucoup plus, parfois même, en fait, l'ensemble d'une communauté dédiée. Ça représente quelques dizaines, voire centaines de personnes à certains points. L'analyse des échantillons de Ryugu, de l'astéroïde, rassemble plusieurs centaines de chercheurs autour du monde. Donc, il y a toujours une attente autour de ces résultats-là qui sont en fait des premières. C'est la première fois, cette mission spatiale japonaise, c'est la première fois que des échantillons...
Tu es en interaction justement avec ce genre de scientifiques, enfin, avec cette communauté, forcément, beaucoup de gens qui travaillent sur ces échantillons. Est-ce que tu as pas mal échangé avec cette communauté-là ou c'est assez spécifique sur quoi tu travailles?
Au jour le jour, le travail est assez ciblé sur ce qu'on peut faire à l'Institut. Après, oui, il y a des communications qui peuvent se faire, mais ça va être assez ponctuel, ça va vraiment pas être du quotidien.
Oui, c'est pas forcément quotidiens. Une collaboration en permanence avec toutes les personnes qui ont ces mêmes échantillons.
Alors, il y a eu au tout début, quand on a reçu les échantillons en septembre 2021, il y a eu une période de symposium, qu'on appelait ça comme ça. C'était un groupe de travail qui était lié à l'Agence spatiale japonaise, et où donc là, les résultats appartenaient en fait dans un premier temps à cette Agence spatiale japonaise. Okay. On ne pouvait pas en faire ce qu'on voulait, donc là, on était complètement inscrit dans une démarche de collaboration. Et puis, une fois ces études préliminaires terminées, on est devenu beaucoup plus libre dans nos façons de traiter les résultats et de les valoriser aussi.
Ouais, donc une ouverture progressive en fait des échantillons.
Tout à fait, ouais.
Aussi. Ouais. Merci déjà pour toutes ces premières réponses. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau qui a été choisi par Sylvain, Exogenesi Symphony, Part 1 de Muse. De retour pour la seconde partie de la Mater Radio avec Sylvain Laforêt, qui est toujours doctorant en troisième année de thèse à l'UMET. Alors un morceau qui nous fait un peu flotter, pourquoi ce morceau ?
Alors Muse, tout d'abord, c'est un groupe qui me suit et que je suis aussi depuis une quinzaine d'années peut-être maintenant. Et donc en fait, ce morceau est une symphonie en trois parties. On a écouté la première, j'invite les auditeurs à écouter les deux suivantes, qui sont aussi magnifiques. Et cette symphonie parle du fait que les briques élémentaires pour former la vie sur Terre aient pu venir de corps extraterrestres qui peuvent être les astéroïdes, entre autres. Et c'est ce que raconte en fait cette première partie de symphonie, et donc qui touche en fait complètement à notre sujet.
C'est ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on a évoqué le fait que tes astéroïdes étaient gorgés d'argile, mais du coup un peu d'eau. Mais on n'a pas finalement... Super, ok, il y a de l'eau dans les astéroïdes. Et alors, j'ai envie de dire, pourquoi ? Qu'est-ce qui est intéressant ?
Il y a de l'eau dans les astéroïdes, en effet. Il y a beaucoup d'eau dans les astéroïdes. Et au début de la formation du système solaire, notre proto-Terre, donc la jeune Terre, elle n'en possédait pas ou très peu. Et donc... il est possible que cette Terre, au fur et à mesure de son évolution, se soit progressivement refroidie et ait aussi vécu des chutes d'astéroïdes de ce type-là à sa surface, qui aient pu amener donc, ces briques élémentaires, qui peuvent être l'eau, qui forment ainsi les océans, mais aussi de la matière organique pour amener ce qu'on appelle des acides aminés, qu'on a beaucoup trouvé aussi dans l'astéroïde. Donc, ces astéroïdes, en fait, ont pu amener beaucoup de sources pour le développement futur de la Terre et l'évolution qu'on lui connaît.
Alors tu utilises beaucoup le conditionnel, on est d'accord que ce sont des hypothèses spéculations, mais que ni ta thèse ni d'études suffisamment formelles permettent d'attester que c'est vraiment ça à 100%.
En fait, le fait de voir autant d'astéroïdes qui possèdent de l'eau et de la matière organique ouvre grandement la porte à ces réflexions-là, mais en effet ne permettent pas de conclure. On ne peut jamais être sûr de ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Mais en tout cas, la porte n'est pas fermée et c'est ça qui est beau.
Donc peut-être les clés de la compréhension de l'origine de la vie sur Terre avec ce genre de travaux, ça promet en tout cas pour la suite. Je te propose maintenant aussi qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que c'est vrai que finalement, tu as choisi ce morceau qui te plaît. Mais bon, si tu fais cette thèse, c'est aussi... quelque chose qui, à mon avis, te plaît beaucoup. Est-ce que tu pourrais peut-être d'abord nous parler de ton parcours, c'est-à-dire d'où tu viens en termes d'études, qui t'a amené à rentrer dans le monde scientifique ?
Alors moi, je suis issu de région bordelaise. J'ai fait mon lycée là-bas, un lycée scientifique à l'époque, bac scientifique, et qui m'a amené à faire une classe préparatoire intégrée et puis une école de chimie physique à Bordeaux toujours, qui s'appelle l'ENSMAC aujourd'hui, que je salue. Et donc après ça, je me suis un petit peu spécialisé en sciences des matériaux, donc pas du tout axé en fait en cosmochimie ou en étude du ciel et de ses objets, mais voilà, cette formation ouvre à la connaissance des matériaux en tout genre et donc permettre de se retrouver dans ce genre de sujets de thèse qui sont passionnants.
Qu'est-ce qui t'a amené à travailler, alors d'abord juste sur une thèse, qu'est-ce qui t'a amené à te dire « ouais, j'ai envie de me lancer dans une thèse ?»
Alors, je n'avais pas prévu initialement de partir faire une thèse. Et voilà, les faits ont fait que. Et en fait, la porte s'est ouverte, j'ai été pris par ce sujet-là qui me fascinait. Et donc, j'ai sauté dans l'aventure.
Donc c'est un sujet, oui, que tu as vu, mais que t'as pas, enfin, ouais, qui t'a intéressé. C'est pas forcément un sujet que t'as construit, sur lequel tu voulais absolument travailler. C'est ça. Donc si c'est un sujet qui t'a plu, c'est que voilà, la thématique te plaisait quand même. Pourquoi ? Alors tu l'as dit toi-même, finalement, tu n'étais pas spécialement cosmochimiste. Je sais pas comment le dire. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à préférer voilà un sujet autour de l'espace et du cosmos ?
Eh ben alors en fait, il y a une graine qui a été germée. Par mon père qui m'a passé lorsque j'avais environ 16 ans, qui m'a mis un livre entre les mains qui s'appelle L'univers à portée de main, un livre écrit par Christophe Galfard et qui invite à voyager dans l'espace, à travers l'espace et le temps. Et c'était un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce domaine-là et fasciné. Et donc, même si mes études d'après lycée n'ont pas été portées là-dessus, j'avais toujours ces thématiques en tête. Sans trop me dire que j'allais pouvoir un jour toucher du doigt ces thématiques. Et en fait, pourquoi pas ?
Finalement, oui. Comme quoi, si on aime l'espace, on n'est pas obligé de faire de l'astrophysique. Il y a plein de domaines dans lesquels
le cosmos s'implique. Et en fait, on se rend compte que En tout cas, dans notre équipe, il y a assez peu de personnes en fait, qui ont fait un master ou des études en cosmochimie ou en astrophysique.
Tu connaissais l'Institut Chevreul avant de venir ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc ouais, tu savais même pas forcément qu'il y avait des équipements
de haut
niveau.
En fait, il venait d'ouvrir quand je suis arrivé en 2021, avril 2021. L'Institut Chevreul était tout jeune, alors je savais que le microscope existait, j'en avais entendu parler par sa renommée. Mais là, je ne savais pas dans quelle plateforme l'accueillir.
D'ailleurs, ce microscope, est-ce que tu l'as utilisé souvent ? Est-ce que tu l'utilises encore, d'ailleurs, aujourd'hui ? Et comment c'est d'utiliser un matériel de ce niveau technologique ?
Alors, en fait, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai commencé ma thèse le premier jour de ma thèse. On a reçu les échantillons de cette mission spatiale. Donc en fait, le timing était exceptionnel. Et donc en fait, les premiers jours de cette thèse, on mettait les échantillons dans le microscope et on découvrait ce qu'il cachait. Et en fait, à partir de là, il s'en est suivi 2 ans et demi d'études. Alors il faut savoir qu'au microscope, on n'y va pas tous les jours. On y va à peu près 2 fois par mois, je dirais, 2 jours par mois. C'est largement suffisant, on collecte des données qui sont importantes à traiter aussi, il y a tout un aspect de traitement des données qui n'est pas à négliger dans ce genre d'études et qui est tout aussi passionnant. Donc en fait, ça, il y a tout un panel de disciplines qui s'entremêlent.
C'est ça, il n'y a pas que de l'expérimentation, de l'analyse de données, de la bibliographie, j'imagine aussi lire beaucoup. Et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu disais aussi de vulgariser, en tout cas de diffuser aussi ces savoirs, de pas simplement cantonner ça au laboratoire et aux publications scientifiques, même si c'est déjà une forme de partage en soi, de partager avec la communauté scientifique. Et donc cette médiation, c'est quelque chose en plus que tu fais pas mal, puisque tu as eu quelques expériences là-dedans, et en particulier, tu as été récemment sélectionné pour que ta thèse soit adaptée en bande dessinée dans la prochaine édition de Science en Bulle, qui paraîtra en octobre prochain, donc est une BD regroupant plusieurs thèses mises sous forme de bande dessinée, et ça paraîtra au moment de la fête de la science. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette expérience, alors pas que de cette BD, mais aussi de ce que tu as pu faire avant, ou ce que tu prévois de faire?
Alors la médiation et la vulgarisation, en fait, j'y ai pris un grand goût pendant cette thèse-là. Alors à la fois parce que j'aime ça, mais aussi parce que le sujet est porteur et donne envie en fait, d'en parler et d'apporter en fait, un petit peu de curiosité, éveiller l'auditoire qui est souvent des lycéens, voire collégiens. Et donc, essayer de communiquer ce que l'on fait au quotidien, essayer d'apporter un petit peu de connaissances, un petit peu d'émerveillement, et c'est vraiment gratifiant. Et surtout avec un sujet comme celui-ci qui est très très porteur pour ce genre d'exercice. Et donc la bande dessinée, il y a eu un peu plus tôt ma thèse en 180 secondes. Il y avait aussi au centre, la cité scientifique, au centre L'Iliade, qui accueillait au sein de l'Experium des stands qui permettaient de montrer à la fois des échantillons de météorites, qui permettaient de raconter un petit peu plus profondément de la mission spatiale. Ça permettait de voir tout type de public et de partager autour de ça.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire de la médiation scientifique, surtout que tu parles beaucoup d'expérience finalement à l'oral, face à un public. Ouais. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ?
Alors ça apporte déjà un recul sur son propre sujet. Des fois on est un peu la tête dans le guidon, ça permet de prendre un peu de hauteur et de voir les choses un peu plus largement. Et puis après ça permet aussi de faciliter son approche de prise de parole et d'aisance en fait à l'oral. Comment communiquer, comment rendre un sujet intelligible et intéressant, ce qui n'est pas si simple. Et donc c'est un très chouette exercice dans le but. Après, à terme, c'est vrai qu'on a toujours ça en tête quand on est doctorant, c'est de soutenir sa thèse, qui est une épreuve de présentation de son sujet. Et donc voilà, à l'oral. Donc il faut prendre ça en main aussi pour appréhender cet exercice.
Donc finalement, conseil à tous les doctorants et doctorantes de l'Institut Chevreul, n'hésitez pas à venir me parler, je suis chargé de médiation scientifique et je peux vous accompagner dans toutes ces actions-là.
Très belle pub.
Pas toujours, il faut, c'est important. Est-ce que, pour finir, tu pourrais d'ailleurs nous donner un autre conseil, alors plutôt à des jeunes qui ne sont pas encore dans la recherche, donc que ce soit étudiants ou lycéens, qui seraient justement intéressés par ce domaine et,
Alors, si vous êtes intéressé par la recherche, n'hésitez pas à ouvrir des portes. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'Université de Lille ou ailleurs. On n'en a pas forcément conscience. Alors, soyez curieux et essayez de vous renseigner Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à vous répondre et à répondre
quand,
à vos questions.
Quand tu dis renseigner, finalement, c'est contacter des gens par mail, c'est aller sur place.
Ouais, c'est les deux. Les ça deux. Peut être, je dirais, dans un premier temps par mail, puis ensuite.
Ne pas hésiter à aller à la rencontre voilà, en fait,
exactement,
des personnes.
Exactement.
Des...
C'est là où on apprend le plus de choses.
C'est vrai que pour évoluer parmi les scientifiques, c'est quand même des gens, je trouve, très très ouverts, qui ont à cœur de partager leur passion et qui sont toujours prêts à considérer, au moins considérer en tout cas, une candidature ou un intérêt pour ça. Merci beaucoup, Sylvain,
Merci à toi.
Ta seconde participation à la Matéradio. Et on espère, pour cette fois, la dernière, pour ne pas devoir le refaire encore.
Alors, je reviendrai avec plaisir.
Mais on reviendrait sur une autre émission, je n'en doute pas. Donc on se dit aussi rendez-vous en octobre pour découvrir cette fameuse BD Science en Bulle. Pour rappel, donc, ouais, l'ensemble des interviews de la Matéradio sont disponibles en replay sur le site chemact.unif-lille.fr. Vous voulez les réécouter, donc cette émission ou les suivantes. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour l'interview de Clara Dubois, qui sera donc notre 4e doctorante interviewée. Ça aura lieu le 24 avril à 16h30. Cette fois, on revient à 16h30 et non pas 17h30. Merci à tous et bonne soirée.
Au revoir.